Chapitre 20. Les parents de Cyriane lui firent la mauvaise surprise de se pointer chez lui à 9h du matin. Quand il entrevit leur visage sur l'écran de surveillance inséré dans le chambranle, il se souvint que sa mère lui avait téléphoné quelques jours plus tôt pour précisément l'avertir de leur passage. Il n'y avait pas prêté attention sur le moment. Accaparé par les préparatifs de son prochain voyage extracorporel, il s'en mordait les lèvres à présent. Il ne pouvait plus reporter leur visite. Il ne lui restait plus qu'à concevoir un scénario plausible pour les courter. Le jour était évidemment mal choisi. Il lui fallait récupérer à la banque les 15 000 euros pour Johannes, 17 500 en comptant le salaire du corps d'emprunt avec un peu d'argent de poche pour lui, puis, comme l'Allemand agirait seul, qu'il cumulerait donc le travail de 3 ou 4 techniciens, il devait encore mettre au point les derniers détails du voyage.
« Je vous ouvre !»
Il déclencha l'ouverture de la porte de l'immeuble, avant de se précipiter dans la chambre et de réveiller Aurel d'une bourrade. Elle émergea des draps et tourna vers lui un visage chiffonné de sommeil. « Mes parents sont là, habille-toi » Elle poussa un soupir de protestation avant de se lever. Geste hésitant, mou, boudeuse, elle n'avait pas encore établi la coordination entre son cerveau et son corps. Cyriane la trouvait émouvante dans la gaucherie du réveil. Elle passa sa robe sans prendre le temps d'enfiler ses sous-vêtements et donna un coup de brosse mécanique à sa chevelure ébouriffée.
On pue,
murmura-t-elle, assise sur le rebord du lit, le nez collé à son aisselle. Les parents de Cyriane étaient trop courtois pour laisser paraître une quelconque gêne devant deux jeunes gens qui sautaient visiblement du lit après s'y être vautrés une grande partie de la nuit. On fit donc les présentations de la même façon qu'on se serait croisé dans une soirée mondaine. Le père de Cyriane, cependant, ne put s'empêcher de manifester un vif intérêt pour la maîtresse de son fils. Œil de velours, sourire charmeur, humour ravageur, la panoplie du tombeur impénitent qui avait failli à plusieurs reprises conduire son couple à la ruine. Cyriane le soupçonnait de jouer de son physique ténébreux et de son statut de mâle dominant pour démontrer en public sa supériorité sur son fils, et plus encore devant sa petite amie. Il devait admettre, avec une pointe de dépit, Aurel semblait fasciné par son numéro de séducteur. Il n'avait jamais réussi à se défaire du sentiment réflexe d'infériorité devant l'auteur de ses jours. Son père avait l'allure rassurante de ceux qui plient la matière à leurs désirs, visage éternellement bronzé, chevelure épaisse et brune, aux tempes savamment grisonnantes, sveltesse de jeune homme, dents à la blancheur insolente, vêtements taillés sur mesure, y compris la tenue décontractée qu'il portait pour l'occasion, patron d'un groupe de haute technologie dont il avait décuplé la valeur boursière en 8 ans, en cédant à la mode de la délocalisation et en laissant environ 10 000 travailleurs sur le carreau dans les pays européens où siégeaient les filiales de Natechno, 5e marchand d'armes de la planète, membre influent du MEDEF, cité régulièrement dans la liste des 30 chefs d'entreprise qui comptaient en France, invité de temps à autre dans les médias pour donner son avis pertinent à propos des orientations gouvernementales désastreuses sur l'économie, bourreau de travail, dormant 3 ou 4 heures par nuit, aussi à l'aise sur les skis ou sur une moto qu'avec un parachute ou une combinaison de plongée, bref, une sorte de concentré d'énergie et de réussite qui, évidemment, ne pouvait que captiver les femmes. La mère de Cyriane, elle, ne pouvait que s'estomper dans une telle aura. 5 ans plus jeune que son mari, elle en paraissait 10 de plus. Elle ne ménageait pourtant pas ses efforts pour se rapprocher le plus possible, s'éloigner le moins possible, de la jeune femme à la beauté lumineuse qu'elle avait été dans un passé pas si lointain. Elle était parvenue à rester mince, voire maigre, après la ménopause, en s'infligeant des régimes tyranniques. Du coup, sa peau s'était distendue, fripée, bien qu'elle évitât de l'exposer au soleil, tout en restant allée toute l'année. Mystère. Seuls ses cheveux avaient conservé leur blondeur et leur aspect soyeux d'origine. Elle refusait de recourir à la chirurgie esthétique, qu'elle estimait réservée aux actrices médiocres et autres écervelées de la jet-set, d'autant qu'elle se voulait à la fois bienfaitrice de l'humanité et adepte de l'écologie. Bref, une femme engagée qui avait bien d'autres préoccupations en tête que sa petite personne. La faim dans le monde, par exemple, le réchauffement climatique, ces boudilles dont l'immersion annonçait des catastrophes terribles ou encore les disparitions accélérées d'espèces animales et végétales. Comme Cyriane avait reçu en héritage les gènes maternels, il disparaissait lui aussi dans le rayonnement du père. Tout en buvant le café raté préparé par sa mère, il observait la parade de séduction du vieux mâle dominant, son ramage, son comportement, ses mines, ses poses. À la scène qui se jouait devant lui, se superposaient les images des grands singes des reportages animaliers. Les uns usaient de l'intimidation ou de la puissance pour éloigner les jeunes prétendants et confirmer la hiérarchie. Lui exploitait sa position hiérarchique, puissance, et son physique, intimidation, pour écraser, humilier son héritier. De temps à autre, Aurel levait sur Cyriane un regard navré qui semblait dire « Pourquoi tu n'es pas comme lui ?»« Parce que je ne suis pas un animal, aurait-il pu et dû répondre. » Mais un homme engagé sur le chemin de l'humanité véritable, un titan, un homme capable d'être tous les noms de l'histoire, un homme délivré de ses conditionnements, un homme qui affirme la vie, un homme qui danse sur la corde tendue au-dessus de l'insondable mystère. Qu'est-ce qu'elle pouvait comprendre à ça, Laurel perdue dans ses rêves de petite fille, Laurel en quête d'une figure protectrice, Laurel emberlificotée dans les mythes. Quelle importance ! Il avait cessé de l'aimer.
Vous ne verriez pas d'inconvénient à nous accompagner au restaurant, n'est-ce pas ? Proposa le mâle dominant avec un sourire qui n'admettait aucun refus.
Volontiers, si vous me laissez le temps de me préparer, gloussa la jeune femelle conquise.
Bien entendu. Tu n'as même pas félicité ton fils pour ses résultats, intervint la vieille femelle.
Pas grave, maman, ce n'est qu'une admission en troisième année, après tout, grinça le jeune mâle. Veuillez m'excuser, je dois d'urgence me rendre un peu plus présentable. La jeune femelle se dirigea vers la salle de bain d'une allure dansante, étudiée pour mettre en valeur ses formes, ses jambes surtout, son meilleur atout. Le mâle dominant la suivit du regard jusqu'à ce que la porte se referme sur elle, puis se tourna vers son héritier.
« Félicitations, Cyriane. Je croyais m'être planté sur les maths. Je ne parle pas de ça, mais de ton amie. Elle est vraiment très jolie. »
Cyriane fixa son père en s'efforçant de contenir sa rage. Qu'il la drague, qu'il la baise s'il en vit l'en démange, il aura de toute façon été devancé sur ce coup-là. Il n'arrivera qu'en deuxième position dans la hiérarchie familiale. La convoitise du mâle dominant lui entrouvrait, en tout cas, une excellente porte de sortie.
« Je ne peux pas venir avec vous au resto... »«
Cyriane !» protesta sa mère. « J'ai oublié de vous prévenir. Un rendez-vous important, impossible de le décommander, ça concerne mon avenir. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. »
On a toutes les vacances pour se voir, maman.
Et puis, avec Aurel, vous ne perdrez rien au change.
Comme prévu, son père sauta sur l'occasion, incapable de maîtriser son histoire, sa volonté de pouvoir.
Si c'est pour ton avenir.
Nous t'avions consacré cette journée, Cyriane, soupira sa mère, sans chercher à masquer le dépit dans sa voix.
Et crois-moi, ce n'est guère facile avec l'emploi du temps de ton père.
Cyriane a raison, tu auras toutes les vacances pour profiter de lui.
Le chef d'agence tiqua un peu avant de remettre les 17 500 € à Cyriane. Non que le compte fût à découvert, loin de là. Mais c'était la deuxième fois en peu de temps que son jeune client retirait une somme importante en espèces et qu'il ne daignait pas répondre sur l'usage qu'il comptait en faire. Même s'il était majeur, qu'il n'avait pas à se justifier, les lois d'exception antiterroristes contraignait les banques à collaborer sans aucune restriction avec les brigades financières. Le banquier coupa court à ses hésitations en se disant qu'il n'y avait vraiment aucun risque pour que ce jeune homme d'excellente famille appartînt à un réseau extrémiste, bien que son père fût l'un des principaux fabricants et marchands d'armes de la planète. Peut-être devait-il régler son fournisseur en cocaïne ou en autre drogue, un trafic qui n'entrait pas dans le cadre de la loi antiterroriste.
Tant mieux. Il aurait été dommage de perdre un client dont le compte confortablement garni était l'un des plus rentables de l'agence.
Cyriane eut tout juste le temps de sauter dans un taxi pour rejoindre Johannes dans un petit restaurant du 12e arrondissement près de la rue de Reuilly. L'Allemand n'avait changé ni de vêtements ni d'humeur depuis leur dernière rencontre. Il paraissait plus sombre que jamais, avec sa barbe clairsemée de plusieurs jours et les cernes profonds soulignant ses yeux. On entrevoyait des trous dans sa chevelure collée par la crasse, des signes avant-coureurs d'une alopécie qui débuterait par le haut des tempes et la tonsure. Ils s'installèrent à la terrasse du restaurant déployée sur le large trottoir. Le soleil, radieux, dispensait une douce chaleur qui transperçait les vêtements et pénétrait jusqu'aux os. Quelques oiseaux accrochaient leurs trilles aux frondaisons de deux arbres aux feuilles tendres qui dominaient le boulevard. Les voitures filaient au mépris des 30 km à l'heure imposées en ville par le ministère des Transports.
On tablait sur d'importantes économies d'énergie avec les nouvelles limitations de vitesse 100 sur autoroute, 90 sur double voie, 80 sur nationale et 30 en ville. Johan se fuma 2 cigarettes coup sur coup avant d'expulser son premier mot. Tu as le fric ? Cyrian préleva 5 billets de 100 euros dans l'enveloppe qu'il tendit à l'Allemand.
17 000, 15 000 pour toi, 2 000 pour le vaisseau, comme convenu.
Johan se fourra l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste noire, sans en vérifier le contenu.
Il sera là à 11 heures, marmonna-t-il.
Qui ?
Ton corps d'emprunt.
Comment est-il ?
Tu verras sur place.
L'Allemand commanda un steak tartare et Cyrian un pavé de saumon servi avec une sauce piquante et un accompagnement de légumes verts.
J'ai failli tout annuler, reprit Johannes, quand le garçon se fut éloigné. Des vautours rôdent autour du translateur. La confrérie prévoit de le déménager et de le faire garder jour et nuit.
Quels vautours ? Des gens qui aimeraient bien étudier la machine de près.
Pour la commercialiser ?
Certains ?
Oui.
D'autres la destinent à des usages un peu plus... Il s'interrompit lorsque le serveur posa devant eux les couverts, les serviettes en papier, une bouteille de rosée et une carafe d'eau.
Les vrombissements des voitures lancées sur le boulevard submergeaient par intermittence le brouhaha des conversations.
« Quel usage ?» demanda Cyrian.
« Disons que le monde du renseignement militaire s'intéresse de près aux translateurs. »
La confrérie avait jusqu'alors réussi à colmater les fuites. Mais certains n'ont pas su tenir leur langue ou bien ont vendu les informations.
Je ne vois pas en quoi les militaires...
La réponse se formula dans l'esprit de Cyrian juste avant que Johannes ne reprenne la parole.
Aucun détecteur ne peut repérer l'âme qui voyage dans un corps d'emprunt. C'est un système absolument parfait pour le renseignement. Surtout que l'âme ou la conscience voyageuse garde en mémoire tout événement qui s'est produit dans son vaisseau avec la même acuité que dans son corps d'origine.
Imagine maintenant qu'on perfectionne le translateur, qu'on puisse transférer l'âme sans que le corps d'emprunt soit obligé d'être dans la même pièce. On pourrait parasiter n'importe quel chef d'état-major, n'importe quel scientifique, n'importe quel ministre, n'importe quel président, n'importe quel dictateur. On pourrait récupérer n'importe quel renseignement top secret. Un code nucléaire, par exemple. Les verrous informatiques d'une banque centrale. Les plans d'un état-major. La conversation entre deux chefs d'état. Le schéma d'une usine d'énergie ou d'une nouvelle arme. Bref, les possibilités sont infinies.
Le serveur déposa les assiettes et leur souhaita bon appétit.
Cyrian jeta un regard derrière lui. Il lui sembla qu'un homme attablé près d'eux les fixait d'un regard sournois et insistant.
C'est quelqu'un de la confrérie qui a parlé ?
Il avait posé sa question à voix basse, gagné déjà par la paranoïa contenue dans les propos de Johannes.
Peu probable, mais pas impossible.
Qui d'autre alors ?
Des agents infiltrés ? Restent également les vaisseaux, les corps d'emprunt ?
Je croyais qu'ils n'étaient pas au courant.
En principe, non. Mais certains d'entre eux, ceux que le besoin d'argent pousse à renouveler l'expérience plusieurs fois de suite, finissent par deviner qu'ils ne sont pas en train d'essayer une nouvelle molécule.
Ceux-là comprennent que nous ne sommes pas vraiment non plus un laboratoire pharmaceutique et viennent nous réclamer un petit supplément pour garder le silence.
Vous les payez ?
Certainement pas. Comme toujours, nous devons trouver une solution adaptée.
Johan s'ajouta du sel et du poivre avant de mélanger l'œuf, les herbes et la viande crue.
Quelle solution ?
Johan se désigna l'assiette de Cyrian.
Attaque, ça va refroidir.
Ils mangèrent et burent en silence jusqu'à ce que Cyrian relance la conversation.
Le déménagement du translateur est prévu quand ?
La semaine prochaine, ce qui nous laisse tout juste le temps de boucler ton VEC.
Après, je crains fort que nous ne puissions plus transgresser les règles.
Les risques ne sont pas trop grands.
Johannes leva sur son vis-à-vis un regard dur, venimeux.
Trop tard pour revenir en arrière. Toi, tu veux ton voyage, moi, j'ai besoin de ton fric. Et puis, toute entreprise humaine comporte une part de risque.
Nous sommes des danseurs de cordes, non ?
Cyrian se raccrocha au souvenir de son premier voyage pour chasser l'oiseau de mauvais augure qui volait à l'intérieur de sa tête. Il avait besoin de vivre quelques jours dans un autre corps, besoin de sortir de lui-même pour mieux se retrouver. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à danser sur la corde.
Johannes esquissa son premier sourire de la journée. Ils trinquèrent, finirent leurs assiettes, vidèrent la bouteille de vin et commandèrent des cafés. L'Allemand paya l'addition avec un billet tiré de l'enveloppe. Ils se rendirent à pied dans le bâtiment en apparence délabré qui abritait le laboratoire de la confrérie. Johannes lui expliqua que le translateur serait bientôt installé dans un bunker plus difficile à violer que Fort Knox, la rançon de la gloire, la clé d'une future réussite plus éclatante que celle des inventeurs des interfaces graphiques à la fin du XXe siècle. À plusieurs reprises, Sirian aurait juré qu'on les suivait. Des ombres furtives arpentaient les rues pourtant tranquilles du 12e arrondissement. L'oiseau de mauvais augure volait à nouveau dans sa tête. Il repensa à Aurel et à son père. Il était tout ce qu'elle recherchait et tout ce que lui-même ne serait jamais. Un fauve, un prédateur. Il lui suffirait de claquer des doigts pour qu'elle finisse dans son lit, hypnotisée, sourit dans la gueule du serpent. Et la vieille femelle n'y pourrait rien. Le mâle dominant connaissait toutes les ruses pour déjouer sa vigilance. Johannes attendit que la rue soit complètement déserte pour presser les touches du digicode et pousser la première porte. Sirian mémorisa machinalement la succession de chiffres et de lettres. Quand ils traversèrent la petite pièce qui servait également de salle d'attente, il oublia le sombre pressentiment et l'ombre envahissante de son père pour se concentrer avec enthousiasme sur son prochain voyage.